Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission À votre avis. Alors, Conakry, capitale mondiale du livre pour les 12 prochains mois, l'événement organisé avec l'UNESCO a été lancé ce week-end avec comme double objectif encourager les jeunes à lire, mais aussi lutter contre l'analphabétisme. Alors, pourquoi les jeunes ne lisent plus? Nous avons déjà notre premier invité en direct de Conakry. Il s'agit de l'artiste Eli Kamano, artiste également auteur. Eli, bonsoir. Eli, vous m'entendez?
Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, je disais que vous êtes artiste guinéen, vous êtes également auteur du livre Malaya qui sort demain à Conakry. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous écrivez? On vous connaît comme étant chanteur très engagé. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture?
Bon, moi je pense que l'écriture déjà, il y a très longtemps que j'écrivais. Parce que la musique même c'est une littérature, mais une littérature orale, une littérature chantée, une littérature parlée. Et cette fois-ci j'ai décidé d'être plus explicite dans le livre parce que j'ai constaté que la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui a coupé le pont complètement avec la lecture et cela est en train de se répercuter sur la génération future. Donc, moi, je me suis dit qu'en tant qu'artiste écouté par cette jeunesse, et il est mon devoir aussi d'agir dans ce sens pour que la lecture ne meure pas dans notre pays. Parce que les intellectuels se raréfient, les élites se raréfient en Afrique, en tout cas qui viennent de la Guinée. Donc je pense que avec la lecture, les enfants de demain seront prêts à affronter tous les challenges de l'Afrique et du monde.
D'accord. Nous allons revenir vers vous dans un instant. Nous accueillons notre deuxième invité, Amadou Koné. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes écrivain également, professeur ivoirien de littérature francophone et de culture africaine à l'université de Georgetown aux États-Unis ici. Alors, oui. Une initiative comme celle-là, faire d'une capitale africaine la capitale du livre pendant un an, vous pensez que ça peut aider à relancer le goût de la lecture chez les jeunes?
Oui, bien sûr. Je crois que toute initiative relative à la lecture dans notre pays est la bienvenue, et je pense que celle-là précisément est excellente. De pouvoir sensibiliser les gens à la lecture pendant toute une année, faire comprendre que la lecture est une nourriture, n'est-ce pas, spirituelle aussi importante que la nourriture normale, ordinaire. Je crois que tout cela est extrêmement important parce que ça stimule non seulement à lire, ça aide à prendre conscience de tous les problèmes qui sont relatifs au livre, n'est-ce pas?
Et pour vous, pourquoi les jeunes ne lisent plus comme avant?
Bon, je ne sais pas s'ils ne lisent plus comme avant. Cela dépend des endroits, cela dépend des pays, cela dépend des circonstances.
Le constat est quand même assez général et beaucoup mettent en cause, disons, Internet, par exemple. Vous partagez cet avis?
J'étais en train de dire qu'il faudrait des statistiques fiables pour affirmer une telle chose. Parce que quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les gens lisent autant qu'autrefois. Non seulement ils lisent, mais ils écrivent énormément, n'est-ce pas? Les circonstances permettent à beaucoup de jeunes auteurs d'écrire, de faire la publicité de leurs œuvres. Bon, mais cela n'est peut-être pas général partout, mais vous avez fait allusion à l'Internet. Je crois que l'Internet, sa valeur est ambivalente, n'est-ce pas?
Absolument.
Il peut être négatif parce que les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur ces choses-là. On peut penser que prend le temps qui devrait être consacré à la lecture. Mais d'un autre côté, je crois que l'intérêt aide aussi la lecture. car les informations relatives aux textes publiés, comme je disais dans le cas de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, ces informations-là sont disponibles dans l'Internet. Sur Facebook, les jeunes auteurs qui écrivent et qui sont publiés par des maisons locales, par exemple, font la publicité de leurs livres sur l'Internet, sur Facebook.
Et justement, Elie Kamayo, vous évoquez la question des réseaux sociaux dans votre livre Kamaya. Qu'est-ce que vous constatez Malaya. Qu'est-ce que vous constatez auprès de la jeunesse guinéenne qui vous a fait parler de ce phénomène dans votre livre?
Bon, d'abord, mon premier constat, il est négatif. Il est très négatif dans la mesure où aujourd'hui, nous constatons, en tout cas moi je constate que au niveau des étudiants et des élèves, le temps pris par les élèves et étudiants pour pavaner, bavarder, chercher et se balader sur Internet passe pour les cours. Et les professeurs aussi passent leur temps dans les universités, par-ci, par-là, à faire la navette parce qu'ils essayent de joindre les deux bouts. Il y a une défaillance parce que les gens ne jouent plus leur rôle. L'État a démissionné et chacun a fait ses responsabilités. Moi, je vous donne mon exemple. Quand je partais à l'école, je ne connaissais pas le téléphone, je ne connaissais pas l'Internet. Ce n'est pas pour vous dire que l'Internet, il a des côtés seulement négatifs, mais je pense qu'en Guinée, on l'utilise à mauvais escient. Et ça, c'est de manière générale. Il y a plus de 800 000 personnes chez nous qui ont un compte sur Facebook. Et je me demande si les 800 000 personnes auront le courage de lire ce livre que moi, je vais publier. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Ça fait baisser l'envie de la lecture dans notre pays. D'accord. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être en Côte d'Ivoire, les gens lisent, mais en Guinée, les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas comme avant, en tout cas.
D'accord, merci. Elie, restez en ligne. Le temps de prendre un auditeur de Cotonou, Jacques d'Almeida. Jacques, bonsoir. J'ai l'impression qu'on a perdu Jacques. Nous allons retrouver donc Amadou Koné ici aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de, disons, du côté positif d'Internet. Et justement, on a ces bibliothèques en ligne que beaucoup d'universités utilisent. Est-ce que vous pensez que c'est la solution?
Bon, c'est une des solutions. Et comme je vous ai dit, il y a deux aspects dans l'Internet, l'aspect positif et l'aspect négatif. Et effectivement, beaucoup d'œuvres sont disponibles maintenant en ligne. Des œuvres qui étaient introuvables autrefois, il est facile de pouvoir y avoir accès à l'Internet. Donc je crois que c'est une chose très, très positive. Au Mais niveau de la recherche, par exemple, pour les étudiants, les professeurs, il est possible d'entrer dans les bibliothèques qui sont loin, qui ne sont pas en Afrique, et de travailler, d'avoir accès à des textes très difficiles, difficilement accessibles autrement. Donc tout cela me paraît positif. Et comme mon collègue qui parlait tout à l'heure de Guinée, la lecture est un problème en Afrique, a toujours été un problème en Afrique, n'est-ce pas ? À cause de certaines circonstances, à cause du fait que nous n'étions pas une culture de l'écriture et de la lecture. Donc les problèmes que nous rencontrons ne sont pas des problèmes nouveaux.
D'accord, mais pour ce qui est du livre électronique, certains diront qu'il n'a pas peut-être le même goût qu'un livre, disons, qu'on tient entre les mains.
Oui, c'est vrai. C'est vrai pour un amoureux de la lecture. Le livre est un instrument fétiche, si on peut dire. L'acheter, voir la couverture, le caresser, le lire avec amour, tout cela, je crois que les amoureux ressentent ces choses.
D'accord. Allez-y.
Mais il y a cela, d'une part, et d'autre part, un autre aspect qui est la nécessité d'avoir accès à la chose. Et si on n'a pas le livre physique, je crois qu'on l'apprécie, on apprend à apprécier la lecture en ligne.
D'accord.
Oui,
nous allons prendre Jacques maintenant, Jacques d'Almeida depuis Cotonou. Vous êtes en ligne?
Oui, je suis là.
Alors, vous semblez dire que c'est la faute aux parents. Pourquoi?
Oui, c'est la faute aux parents.
Expliquez-vous.
Je dis, ce sont les parents qui, normalement, devront donner le goût de la lecture aux enfants, à partir de leur bas âge. On voit un peu, parce que quand tu as ton enfant, c'est l'éducation que tu lui as donnée. L'enfant reçoit l'éducation qu'il a reçue en quelque sorte. C'est-à-dire, s'il prend le goût, si vous l'avez éduqué par la lecture, que vous avez essayé de l'habituer à la lecture. Par exemple, les enfants de la maternelle et autres, il y a des livres qui leur permettent de l'éveil de conscience, qui permettent l'éveil de conscience, d'éveiller leur conscience. Et avec ça, au-dessus des temps, quand l'enfant grandit et suit des pas là, vous essayez de le suivre, de lui trouver des livres de ce truc-là, vous l'habituez à la lecture.
D'accord.
Et là, il prend le goût de la lecture. Actuellement, moi, je me rappelais aussi, par exemple, quand j'étais au collège, et quand j'étais au cours primaire, on a des groupes. J'ai mon directeur qui a ouvert une bibliothèque pour nous. On était les exposés qu'on nous demandait, que les professeurs demandaient au collège. Moi, j'ai déjà commencé à contourner ici dans mon établissement. J'ai commencé les exposés à partir du cours moyen première année. D'accord. Et c'était une obligation. Tu prends le livre, tu fais la lecture, et les amis, on est obligé à venir faire l'exposé. Vous voyez, vous exposez, vous faites le résumé du livre.
D'accord, merci beaucoup Jacques, on a compris votre point de vue. Alors, Elie, cet auditeur de Cotonou dit que c'est la faute aux parents et qu'on n'a plus les mêmes habitudes avant. Alors, Internet est une réalité aujourd'hui. Comment est-ce que, par exemple, vous comptez distribuer votre livre? Est-ce que vous allez prendre en compte l'aspect Internet pour aller trouver les jeunes là où ils se trouvent?
Bon, moi, j'ai déjà le livre, je viens de le sortir. Armatan Sénégal va le distribuer, va le publier déjà sur Internet. Je ne suis pas contre, c'est bien, c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit que Internet en soi était mauvais. J'ai dit qu'il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient. Vous ne pouvez pas laisser un enfant tout seul avec un enfant de 15 ans, de 16 ans, avec un enfant, avec un téléphone ou un iPhone ou un iPad. Avec la connexion dessus, il fera du n'importe quoi. Il n'ira pas à rechercher des livres pour se cultiver. Il va faire du n'importe quoi. Donc, moi, en ce qui me concerne, ma promotion, déjà la promotion de l'album, ira avec le livre. Partout où j'irai faire des concerts, parce que je suis un artiste quand même, un artiste connu sur le plan africain, j'irai faire des concerts partout, des festivals.
Et donc, vous allez amener votre livre avec
vous. Faire la publicité. Mmh. Voilà.
C'est une manière assez originale de pousser les jeunes, puisque vous avez un public jeune avec vous. C'est une initiative. Alors, j'accueille dans ce studio mon collègue Félix Yepassi Zembrou. Félix, bonsoir.
Bonsoir, Ado.
Vous êtes journaliste centrafricain, également, vous travaillez ici au service Sango pour la Voix de l'Amérique. Vous êtes également auteur, vous avez écrit Il était une fois ma vie, pour retracer un peu votre parcours de journaliste dans un pays marqué par des crises. Justement, l'engagement d'un journaliste dans un pays comme ça.
Évidemment,
ils ont un écrivain de façon générale.
Ouais, mais bon, Abdou, comme tu dis, en fait, je me permets de te tutoyer, tu sais.
Non, c'est bon.
Hein. Voilà, comme tu dis, c'est des crises vraiment qui perdurent depuis 3 ans, 4 ans même déjà, et bon, on ne sait pas quand on verra le bout du tunnel. Hein. Bon, je veux dire, par rapport à mon livre, c'est pas surtout dans ce contexte que je l'ai écrit. Je l'ai écrit dans un contexte passé, un livre marqué surtout par l'époque de Bokassa, à l'époque quand j'étais encore journaliste à Radio Centrafrique. Donc c'est surtout cet aspect que j'essaie de relever à travers mon bouquin. Hein. Bon, c'est surtout...
Mais justement, le problème qu'on essaie de soulever, c'est que vous auriez bien aimé que des jeunes en Centrafrique puissent lire assez facilement votre livre, mais vu le contexte politique, c'est difficile. Donc c'est un des problèmes que les éditeurs ont en Afrique, c'est le contexte politique.
Oui, effectivement, Abdou, c'est un problème réel, Bon, en ce qui concerne mon livre, je ne sais pas comment, parce que je vais surtout m'appuyer sur les réseaux sociaux d'abord. Ah. Bon, malheureusement, à Bangui, on n'a pas souvent cette occasion, une grande publicité. Et bon, sur place à Bangui, ça peut se passer au niveau de l'Alliance française, parce que pour l'instant, c'est encore le seul créneau où les gens peuvent facilement trouver, atteindre le public des jeunes.
D'accord. Bon. Professeur Koné, mon collègue Félix, évoque justement la question des infrastructures, le manque d'opportunités pour exposer les livres que vous écrivez, que Elie et que d'autres ont écrit. Monsieur Koné?
C'est ça qui rencontre la lecture en Afrique. Il y a le problème de distribution. Mon confrère guinéen a trouvé une solution originale parce qu'il est en même temps musicien. Il va se déplacer avec ses livres et il pourra revendre de cette façon. Mais évidemment, ça, c'est un circuit très peu conventionnel.
Il faut bien trouver des solutions face au problème.
Mais en vérité, il faut des réseaux de distribution. Il faut des distributeurs, normalement.
Et des éditeurs aussi sur le continent.
À travers tout le continent. Et ces réseaux de distribution devraient pouvoir placer les livres chez des libraires. Voilà un autre problème aussi d'infrastructure. Il faut des libraires, il faut un réseau de distribution. Et cela demande une organisation à laquelle il faut penser, parce que nous parlons ici de façon très artisanale. Il faut voir être grand. Au niveau de la CEDEAO, au niveau des regroupements, au niveau du continent, à créer des structures, c'est pas puisqu'on parle d'intégration, mais des structures aussi au niveau culturel, créer des distributeurs africains qui puissent distribuer les livres qui sortent en Guinée, qui sortent au Cameroun, etc., et qu'ils soient disponibles partout en Afrique.
D'accord. Nous allons prendre un auditeur de Conakry, Thierno Diallo. Thierno, bonsoir.
Allez, bonsoir.
Alors, la capitale de votre pays accueille ce grand événement pendant 12 mois. Alors, comment est-ce que vous appréciez la portée de cet événement?
Machallah, moi, c'est depuis Bamako.
Ah, vous êtes à Bamako. Bon, j'étais proche. Mais dites-moi, quel est votre avis sur le fait que Conakry accueille, devienne ville mondiale du livre pendant 12 mois?
Eh bien, je trouve que c'est une bonne chose. Et ça ne doit pas se limiter à Conakry seulement. Si les organisateurs puissent penser à d'autres pays et d'autres capitales africaines, eh bien, ça sera mieux parce que ça va encourager les jeunes à lire, quoi.
Si vous pouvez atteindre votre poste, ce serait bien.
Ok. Ça va?
Oui, ça va. Et à Bamako, est-ce qu'il y a beaucoup de centres culturels où les jeunes vont pour, lire?
Oui, il y en a assez, mais c'est pas trop. Il y a le centre culturel français. On a tous été là-bas quand on était très jeunes. Mais c'est maintenant que nous, on a compris l'importance de la lecture. Donc, on fait ce qu'on appelle l'autodidacte. Nous-mêmes, on va faire un effort, aller chercher les livres et les lire, quoi.
D'accord.
Et je profite pour faire un clin d'œil. On a trouvé un grand écrivain, un homme de lettres, Alba Kaikunta.
D'accord.
Très connu.
D'accord, merci beaucoup. Et
voilà.
Donc, on va retourner à Conakry. Alors, Elie, souvent, beaucoup évoquent la question du coût du livre. Si on prend l'exemple de votre livre qui sort demain, est-ce qu'on peut dire qu'il est abordable, vu le contexte africain? Elie Kamano?
14 euros, ça fait 130 000 francs guinéens. Je sais, pour le citoyen moyen, je sais que c'est trop, mais le même citoyen est prêt à dépenser 150 euros pour aller acheter un téléphone, pour aller acheter un iPhone ou un iPad, je ne sais quoi encore. Donc, il est abordable à 14 euros. Et je crois que sur la question, il y en a qui m'ont posé cette question, qui m'ont dit « Ah, est-ce que c'est pas cher pour les jeunes ?» J'ai dit « Mais les mêmes jeunes de qui vous parlez, ils ont tous des téléphones qui coûtent plus que 100 euros. » Donc,
absolument,
c'est une question d'amour, c'est une question de culture. Il va falloir que nous soyons préparés, nous, les grands, à accepter de se donner, de se sacrifier pour que les enfants qui arrivent soient vraiment, vraiment bien préparés. Sinon, c'est l'avenir de la Guinée qui est foutue. C'est l'avenir de l'Afrique qui est foutue.
Bon, d'accord, merci. Voilà. Merci, Eli Kamano. Alors, Félix, nous allons aborder rapidement la question des langues nationales. L'écriture en langue nationale est souvent difficile, mais vous, par exemple, vous êtes, si on peut dire, un peu un pionnier, puisque vous travaillez sur les langues nationales alors que vous avez fait des études universitaires. Comment est-ce que les langues nationales peuvent aider justement à vulgariser la lecture?
Oui, justement, donc, enfin, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour dire que, bon, en République centrafricaine, nous avons ce privilège d'avoir une langue nationale qui est parlée sur tout l'ensemble du pays. Bon, je pense qu'en Afrique, il y a Madagascar avec le Malagasy et puis, bon, ben, le Sango. Maintenant, qui est une langue officielle, hein, non seulement nationale, mais une langue officielle. Donc je pense que c'est un trait d'union, enfin un ciment déjà pour l'unité nationale, et nos autorités devraient normalement mettre l'accent sur cet aspect pour pouvoir valoriser davantage cette langue qui est parlée par tous les Centrafricains, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc normalement il devrait y avoir une politique, et là c'est un appel que je lance à nos autorités pour valoriser cette langue, l'a enseigné dans toutes les écoles, depuis le primaire jusqu'au secondaire et puis au supérieur. Pourquoi?
Et on aura des écrivains en sango, certainement.
Il y a déjà un dictionnaire qui existe, hein, même avant ça, on avait déjà une Bible traduite en sango.
Nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons rapidement prendre deux auditeurs. On a qui en ligne? Allô, Diallo? On a Diallo en ligne? Apparemment pas.
Deux auditeurs?
Oui. Allez-y, donnez-nous votre point de vue rapidement.
Merci beaucoup. Conakry, capitale mondiale, a été lancée ce week-end à Blozon de Kaloum. C'était vraiment extraordinaire. Mais le problème de nos États, l'État n'arrive pas à investir beaucoup dans ce secteur.
Il y a beaucoup de bruit là où vous êtes, malheureusement. Désolé. Alors, rapidement, en 30 secondes, Amadou Koné, quel avenir voyez-vous pour la lecture en Afrique? 30 secondes.
Oh ben c'est un avenir qui ne peut que s'améliorer, parce que on espère que l'enseignement va se développer progressivement, que l'alphabétisation en français mais également dans les langues africaines va se faire, et plus il y aura de personnes capables de lire, plus la lecture va prendre son importance, j'en suis persuadé. Mmh.
D'accord. Eli Kamano, un dernier mot.
Oui, moi j'interpelle les politiques à ce qu'ils fassent plus d'efforts pour que l'éducation en Afrique, surtout dans mon pays, en Guinée, soit une priorité. Sinon, c'est le chaos. Et je crois que cette génération est la génération des intiques, la génération d'Internet. Et ça, c'est une menace pour nous. Donc, merci beaucoup et à bientôt.
Merci beaucoup. Alors Félix, on termine avec vous. Un autre livre en vue?
Ben, en attendant celui-là, ben, j'y pense pas encore, hein. Bon, ben, ça viendra par la grâce de Dieu, hein. Donc, déjà, mon souci, c'est de sortir ce livre et puis de mettre à disposition de tous mes compatriotes, déjà, et parce que ça retrace l'histoire du pays, depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant par la vie professionnelle.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste deux commentaires d'auditeurs. Ousmane Tongue Kanté qui nous dit que si l'État donne aux élèves et aux étudiants chaque année à l'ouverture des classes un livre, ils vont lire. Et puis Aboubakar Teli Gomba, il faut une bonne formation et donner, investir également dans ce domaine. Merci à tout le monde. Merci à nos invités, Amadou Koné depuis les États-Unis également. Merci à Eli Kamano, artiste guinéen, également auteur. Merci à Félix du service Sango. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.